RFI, les 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
Marie Cazadebé.
Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. J'ai le plaisir de le présenter avec Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde.
À la une de l'actualité, la découverte du corps de Steve dans la Loire, à Nantes. Le jeune Français était porté disparu après l'intervention de la police pour arrêter un concert le soir de la fête de la musique.
Le maire de Moscou a eu des propos très fermes après la manifestation interdite de samedi. Il a prévenu que l'ordre sera respecté.
Et puis l'appel à l'aide du chef du programme des Nations Unies pour le développement après une mission au Yémen. Il décrit une situation humanitaire très grave dans ce pays et pas assez de moyens pour l'aider.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Le corps retrouvé hier soir dans la Loire à Nantes, dans le nord-ouest de la France, est bien celui de Steve.
Steve Maya Canisso, 24 ans, était porté disparu depuis le 21 juin. Dans la nuit, la police était intervenue sur les bords du fleuve pour arrêter un concert de musique techno. 15 personnes étaient tombées à l'eau, 14 ont pu en sortir. Selon l'enquête de l'IGPN, la police des polices, il n'y a pas de lien entre l'action des policiers et la mort de Steve, mais le procureur a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. Cela signifie qu'il y aura une enquête pour savoir s'il y a des responsables à ce drame. Depuis la disparition de Steve, ses proches ont mené des actions pour réclamer la vérité. Ils en ont organisé une nouvelle aujourd'hui en plein centre-ville de Nantes. Le reportage de Maxime Jaglin.
On est touché par ce qui s'est passé, et c'est comme si on le connaissait, quoi. On l'aime ce garçon, mais il est mort, voilà. Et on est en colère.
Debout dans la fontaine royale, Eric et ses amis colorent en rouge l'eau qui jaillit des statues. Quelques heures seulement après la découverte du corps de Steve Maya Canisso, ils multiplient toujours les actions symboliques pour demander justice et vérité.
C'est écrit en grand « Où est Steve ?» Maintenant, on voit que le mot « Steve », le reste a été peint en noir, et les slogans vont changer. « Qui a tué Steve ?»« Justice pour Steve ?» Et on va en trouver plusieurs. On ne va pas lâcher l'affaire, on ne tombe pas et on ne meurt pas à 24 ans pendant une fête de la musique. Pas ici en tout cas, pas en France quoi.
Au milieu des touristes, à gare, les Nantais eux aussi s'arrêtent devant la scène avec encore de très nombreuses questions en tête.
Est-ce que la charge était inutile? Est-ce qu'elle était exagérée? On n'en sait rien en fait pour l'instant.
Après, mais pour moi elle était quand même inutile, créer un mouvement de panique comme ça près de la Loire. Un endroit, voilà, ils savent que c'est dangereux cet endroit-là. Clairement, c'était pas la bonne décision. Je sais pas s'il faut absolument des responsables. Moi, pour moi, c'est plus à l'avenir, arrêter ça.
Plus jamais cela. C'est aussi le message adressé par les proches de Steve. Ils se sont donné rendez-vous sur les bords de Loire pour lui dire, ensemble, un dernier adieu. Maxime Jaglin, Nantes, RFI.
De nouveaux affrontements à Hong Kong entre manifestants et policiers.
Les forces de l'ordre ont utilisé du gaz au poivre pour essayer de mettre fin à un rassemblement devant un commissariat. Une quarantaine de manifestants sont emprisonnés à l'intérieur.
Le maire de Moscou prévient l'opposition qu'il ne laissera pas les manifestants plonger la capitale russe dans l'anarchie.
Sergueï Sobyanin est intervenu à la télévision pour avertir que l'ordre était une priorité pour lui, 3 jours après une manifestation interdite à Moscou. Les autorités russes ont décidément choisi la sévérité et la répression. Une 60aine de personnes ont été condamnées depuis hier. À Moscou, la correspondance de Daniel Valou.
La première interview donnée par le maire de Moscou depuis la manifestation de samedi donne le ton. Sergueï Sobyanin remercie la police, obligée selon lui de faire usage de la force contre les manifestants, et il dénonce l'anarchie, le désordre et le non-respect des lois dont auraient fait preuve les dirigeants de l'opposition et leurs partisans. Même son de cloche du côté du parquet général qui demande une réaction sévère en cas de nouvelles manifestations non autorisées. Enfin, autre signe de fermeté de la part des autorités russes, l'ouverture d'une enquête pour troubles massifs. Une procédure qui pourrait entraîner des peines de prison très lourdes, jusqu'à 15 années de détention. Manifestement, les autorités ont donc décidé de tout faire pour réduire au silence l'opposition. Ses principaux dirigeants sont actuellement derrière les barreaux. Ils ont été condamnés à des peines allant de 10 à 30 jours de prison. L'un de ses représentants a même été arrêté ce mardi alors qu'il sortait d'une réunion avec la mairie. Réunion dont l'objectif était de parvenir à un accord sur la prochaine manifestation. Selon toute vraisemblance, le rassemblement qui doit avoir lieu samedi prochain ne recevra pas d'autorisation et devrait donner lieu à une nouvelle vague massive d'arrestations. Daniel Valot, Moscou, RFI.
L'actualité en Afrique à présent. Au Soudan, tous les établissements scolaires vont fermer demain. Aucune date n'a été décidée pour leur réouverture.
Cette décision a été prise par les autorités soudanaises après la mort de 5 personnes hier, dont 4 lycéens à Al-Obeid, une ville dans le centre du pays. Ce mardi, des centaines de jeunes ont manifesté à Khartoum, la capitale, pour accuser les forces de soutien rapide, un groupe de paramilitaires.
La libération d'un blogueur mauritanien.
Mohamed Ould Mretir avait été condamné à mort en 2014 pour apostasie, ça veut dire qu'il avait critiqué la religion musulmane. Son avocate précise qu'il a dû quitter Nouakchott, la capitale, pour des raisons de sécurité.
Au Yémen, le programme des Nations Unies pour le développement lance un nouvel appel à la paix.
Depuis 2015 et le début du conflit entre les forces du gouvernement et la rébellion Houthi, la situation humanitaire du pays est très grave. Le chef du programme des Nations Unies, Arim Steiner, a passé plusieurs jours au Yémen. Il a rendu public ses conclusions hier. Il demande une mobilisation beaucoup plus importante de la part de la communauté internationale. Clara Lozzi.
Comment aider les populations à se reconstruire? C'est la question que s'est posée Arim Steiner après sa visite de 5 jours au Yémen. À Hodeïda, le port est détruit et les importations impossibles. Une situation catastrophique pour le pays, estime l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement.
Le pays a reculé de 20 ans ces 4 dernières années, soit 2 décennies de développement perdu. C'est le prix de la guerre et c'est un coût non seulement pour l'économie et la nation, mais aussi pour le peuple yéménite. But to the people
of Yemen. Aujourd'hui, 11 millions de Yéménites sont dépendants des aides de la communauté internationale pour vivre. C'est une pression énorme pour les Nations Unies, explique Arim Steiner.
Cette année, les promesses de dons humanitaires étaient proches de 3 millions de dollars. Nous sommes dans la seconde partie de l'année et seulement près $1 million ont été récoltés. Cela veut dire que malgré la situation désespérée, les promesses ne se réalisent pas. Moins de 36% des fonds promis par les pays pour cette opération d'urgence ne nous sont pas parvenus.
Pour l'administrateur du PNUD, il est urgent que les forces du gouvernement et les rebelles houthis prennent leurs responsabilités face à l'ampleur du conflit. Depuis 2015, la guerre au Yémen a provoqué la pire crise humanitaire au monde.
Aux États-Unis, le Parti démocratique organise un deuxième débat pour sa primaire, c'est-à-dire le processus qui va permettre au parti de choisir son candidat pour l'élection présidentielle de 2020.
Qui va affronter Donald Trump? C'est la question qui se pose. 10 candidats vont débattre ce soir à Détroit, notamment ceux qui ont les positions politiques les plus à gauche, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. 10 autres le feront demain soir, dont Joe Biden et Kamala Harris. Ces échanges seront retransmis sur la chaîne de télévision CNN.
Au Mexique, le gouvernement veut relever son économie.
Il y a un mois et demi, la banque centrale du pays a annoncé que la croissance serait plus basse que prévu. On est loin des promesses du nouveau président López Obrador. Depuis cette annonce, le ministre des Finances a changé et il a dévoilé ce lundi ses mesures pour améliorer la situation. Emeline Vin.
Le ministre des Finances débloque l'équivalent de plus de 25 milliards de dollars, financés par la Banque du Développement et le Fonds National des Infrastructures, entre autres. Arturo Herrera n'a pas donné de nombreux détails sur ces mesures de renforcement de l'économie, mais il évoque la construction de nouvelles infrastructures et des dispositifs d'encouragement à investir et à consommer. Les appels d'offres contenus dans ce programme de soutien au dynamisme de l'économie ne sont pas nouveaux, ils étaient en fait programmés pour 2020. Alors pourquoi les avoir avancés et accompagnés de nouveaux crédits? Pour faire face, explique Arturo Herrera, au contexte de ralentissement de l'économie mondiale, rien à voir, selon le ministre, avec la publication des prévisions de croissance ce mercredi. Les analystes s'attendent à une situation proche de la récession. Au premier trimestre, l'économie a déjà reculé de 0,2%. Tout cela alors que le président Andrés Manuel López Obrador, entré en fonction en décembre, a promis une croissance de 2% en 2019.
Les explications d'Emeline Vin. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sébastien Duhamel de m'avoir accompagné.
Merci à vous.
Ce journal, vous pouvez le réécouter sur notre site savoir avec un s.rfi.fr. Passez une très bonne soirée à l'écoute de RFI.
Buonasera e a domani.